Pour la méditation de ce matin, j'ai choisi encore un passage dans l'Ancien Testament, dans le livre des Juges, au chapitre 6. Nous allons lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 24. Juges, chapitre 6, verset 1 jusqu'au verset 24. Il s'agit d'un passage qui montre comment Dieu s'y prend pour appeler quelqu'un à son service. Ce passage nous emmène plus de 1000 ans avant la venue de Jésus-Christ sur terre, pour nous parler de la vocation d'un homme qui s'appelait Gédéon. Et je pense que ce passage va nous révéler une chose intéressante par rapport à l'appel de Dieu à Gédéon, mais aussi par rapport à l'appel de Dieu sur chacun de nous. L'appel que Dieu adresse à chacun de nous, c'est que la puissance de Dieu se manifeste souvent dans notre faiblesse. La puissance de Dieu se manifeste souvent dans notre faiblesse. Alors je propose de lire donc du verset 1 jusqu'au verset 26. Les Israélites firent ce qui déplaît à l'Éternel et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La domination des Madianites fut puissante contre Israël. Pour leur échapper, les Israélites se retiraient dans des ravins, dans les ravins des montagnes, dans les grottes et sous les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, les Madianites montaient avec Amalek et les nomades de l'Est et marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les produits du pays jusque vers Gaza et ne laissaient en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. En effet, ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme en naissant de sauterelles. Il était impossible de les compter, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le dévaster. Israël fut plongé dans une grande misère à cause de Madian, et les Israélites crièrent à l'Éternel. Lorsque les Israélites crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel leur envoyait un prophète. Le prophète leur dit: voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait sortir d'Égypte et quitter la maison d'esclavage. Je vous ai délivré de la domination des Égyptiens et de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez pas les dieux des Amoréens, même si vous habitez dans leur pays. Mais vous ne m'avez pas écouté. Puis l'ange de l'Éternel vint et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas, membre de la famille d'Abiézer. Son fils Gédéon battait du blé au pressoir pour le mettre à l'abri des Madianites. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Où sont tous ces actes merveilleux? Ce que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel nous a-t-il pas fait sortir d'Égypte ? » Maintenant l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit « Va avec la force que tu as et délivre Israël de l'oppression de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Gédéon lui dit « Ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël ? Mon clan est le plus faible de Manassé. » Et je suis le plus petit dans la famille de mon père. » L'Éternel répondit: mais je serai avec toi, et tu battras les Madianites comme il s'agissait d'un seul homme. Gédéon lui dit: si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est bien toi qui me parles. Ne t'éloigne pas d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit: je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Gédéon entra chez lui, prépara un chevreau et fit des pains sans levain avec 22 litres de farine. Il mit la viande dans un panier et le jus dans un pot, les lui apporta sous le térébinthe et le présenta. L'ange de Dieu lui dit: prends la viande et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher et verse le jus par-dessus. C'est ce que fit Gédéon. L'ange de l'Éternel avança le bâton qu'il avait à la main et en toucha la viande et les pains sans levain. Alors un feu s'éleva du rocher. un feu qui brûla la viande et les pains sans levain. Puis l'ange de l'Éternel disparut de la vue de Gédéon. Comprenant que c'était l'ange de l'Éternel, Gédéon s'exclama « Malheur à moi, Seigneur Éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. » Et l'Éternel lui dit « Reste en paix, n'aie pas peur, tu ne mourras pas. » Gédéon construisit là un autel à l'Éternel et il l'appela « L'Éternel paix, l'Éternel paix. » Voyons d'abord, frères et sœurs, ce qu'il y a en amont de cet appel adressé à Gédéon. Il s'agit d'une période, comme on vient de le voir, troublée de la vie du peuple d'Israël. Après la mort de Josué, le successeur de Moïse, et pendant une période d'environ deux siècles, c'est-à-dire depuis l'établissement d'Israël, des tribus d'Israël en Canaan, jusqu'à la fondation de la royauté, avec l'avènement de Saül, le premier roi d'Israël, il n'y a pas eu de leader au sein du peuple d'Israël. Il n'y a pas eu de leader désigné pour remplacer Josué, un homme, quelqu'un de capable d'être à la tête du peuple d'Israël. Et comme il n'y avait pas de leader, pas de chef, ce livre nous dit que chacun faisait ce qui lui plaisait. Chacun faisait ce qui lui plaisait. Et comme chacun faisait ce qui lui plaisait, la cohésion, l'unité et la solidarité étant nécessaire en période de crise, comme celle que le peuple d'Israël vivait, n'existait pas. Chaque tribu d'Israël se débrouillait, se débattait comme elle pouvait dans un milieu vraiment hostile. Or, sans conducteur, sans leader pour l'unifier, pour le diriger, pour conjuguer les efforts des uns et des autres, le peuple d'Israël courait d'énormes risques, car la conquête de la terre promise n'avait pas été conduite jusqu'à son terme. Israël, lui, avait pris possession d'une parcelle du pays, n'est-ce pas ? Mais les Cananéens et les Philistins étaient toujours là. Ils occupaient une grande partie du territoire. Et en plus, il y avait des peuples envahisseurs, des peuples semi-nomades comme les Madianites, les Ammonites, les Moabites, etc., qui faisaient des incursions au sein du peuple d'Israël pour s'approprier tout ce qu'ils avaient. Ce chapitre nous dit d'ailleurs que les Madianites ont subjugué les Israélites pendant sept ans, les obligeant à se réfugier dans des grottes, dans des cavernes, et dans des endroits escarpés des montagnes. Il nous dit au verset 4 à 6, que les Madianites et les Amalécites arrivaient en grand nombre, comme des sauterelles. Image d'ailleurs très, très éloquente, n'est-ce pas, pour décrire la dévastation, n'est-ce pas, après leur passage. Et donc ils arrivaient comme des sauterelles, ils s'attaquaient aux Israélites en ravageant tout ce qu'ils pouvaient. Ils ravageaient tout sur leur passage. Ils détruisaient leurs récoltes, ils pillaient toutes leurs ressources et possibilités de ressources, et ils ne laissaient rien aux Israélites, rien à manger, rien pour semer ni cultiver, ni vivre, ni mouton, ni bœuf, ni âne. Ils ne laissaient qu'une chose aux Israélites, une grande détresse. Ils laissaient donc le peuple d'Israël dans la détresse. Et Israël était impuissant pour faire face à ses ennemis. Il était impuissant pour faire face à ces attaques de l'ennemi et de plus en plus affaibli. On constate aussi à la lecture de ce livre l'infidélité persistante du peuple de Dieu qui était tenté de faire des alliances avec ses ennemis, avec ces peuples païens qui les entouraient. Et ils allaient même jusqu'à adorer leur Dieu. Ils sont tombés dans l'idolâtrie. À plusieurs reprises, il nous est dit dans ce livre, je cite, que les fils d'Israël firent ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Ils abandonnèrent le Seigneur et ils servirent Baal et les Astartès, l'idolâtrie. D'ailleurs, le prophète qui vient les voir, le prophète qui leur est envoyé, leur rappelle la vraie cause du mal, du problème, leur désobéissance au Seigneur. Et il leur reproche de n'avoir pas écouté la voix de Dieu, de l'avoir abandonné. Et en conséquence, nous lisons que le Seigneur les livra aux mains de tel ou tel ennemi. En tout cas, le Seigneur permettait qu'ils soient attaqués par ses ennemis. Alors les fils d'Israël criaient au Seigneur, et le Seigneur envoyait donc quelqu'un pour les sauver, un sauveur, un juge, un leader pour les délivrer de la main de l'ennemi. Voilà donc ce qui nous rapporte ce livre des juges. Et on voit qu'il y a là un schéma qui se répète, un schéma à quatre temps qui se répète souvent. Péché, châtiment, repentir du peuple, envoyé d'un sauveur. Péché, châtiment, repentir du peuple, envoie d'un sauveur. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'est dans ce contexte que Dieu, après avoir envoyé donc ce prophète, rappeler sa parole au peuple, va s'approcher d'un homme. Et cet homme, c'est Gédéon. Et il va s'approcher de Gédéon en lui envoyant un messager, un ange, pour l'appeler à devenir celui qui allait délivrer le peuple, son peuple, de l'oppression des Madianites. Alors je propose de voir comment se déroule cet appel de Gédéon, parce que c'est là que nous pouvons voir des choses très intéressantes aussi pour notre vie chrétienne aujourd'hui. Ça se passe sous un arbre qui se trouvait dans la propriété de Joas, père de Gédéon. Gédéon y est en train de battre le blé dans un pressoir, nous dit le passage. Donc il est en train d'extraire le blé dans un pressoir à raisin. Cela nous montre que Gédéon était un cultivateur et pas un militaire, n'est-ce pas? Et moins encore un chef militaire. En plus, il ne bat pas le blé comme cela se faisait d'habitude, c'est-à-dire sur l'air, cette vaste surface exposée au vent, n'est-ce pas, pour permettre de séparer les graines de la paille. Non, il bat le blé dans un pressoir à raisin. Pourquoi ? Pour se cacher de l'ennemi. Pour se cacher de l'ennemi, le jeune Gédéon travaille caché. Pour protéger sa famille de l'ennemi, des pilleurs. Car comme on le disait tantôt, il y avait des razzias qui se faisaient de temps en temps, n'est-ce pas? Le peuple d'Israël était souvent victime de ces razzias. Il n'avait d'autre choix que de travailler caché pour survivre, pour faire vivre sa famille, pour se protéger. Alors, on peut imaginer le futur chef, leader du peuple, n'est-ce pas? Vivre replié sur lui-même, au fond d'un pressoir, caché quelque part. Un homme qui vit sans doute comme tous les siens dans la crainte, il n'est que l'ombre de lui-même. De plus, on voit que, et c'est Gédéon qui lui dit lui-même, il est le fils cadet d'un homme originaire d'une tribu, sans importance, peu importante, la tribu de Manassé. Quand le messager de Dieu lui apparaît pour lui dire que c'est lui le vaillant guerrier qui va délivrer son peuple de l'ennemi. Gédéon se dit, mais c'est pas possible, il s'est trompé, c'est pas moi, il n'y croit pas du tout. D'ailleurs, ce passage nous fait connaître les différentes phases de sa réaction. Il commence d'abord par s'interroger sur la réalité de la présence de Dieu à leur côté. Et ça, c'est quelque chose qui nous arrive aussi, je suppose, de temps en temps, n'est-ce pas? Lorsqu'on passe par la difficulté, on s'interroge, est-ce que Dieu est vraiment avec nous, oui ou non? Et il doute de l'intervention divine. Voici ce qu'il dit au verset 13. « De grâce, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tant de malheurs s'abattent-ils sur nous? Où sont donc tous ces prodiges que nos pères nous ont racontés en nous disant que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte? En réalité, l'Éternel nous a abandonnés. Il nous a livrés au pouvoir des Madianites. » Ces paroles de Gédéon laissent apparaître avec force la souffrance et le désespoir d'un homme blasé, d'un homme désabusé, d'un homme découragé qui n'arrive plus à croire à une intervention quelconque de la part de Dieu au sein de son peuple. Gédéon se sent lâché, abandonné par Dieu. Le scepticisme a pris place dans son cœur. Mais le Seigneur ne le lâche pas. Et le Seigneur va lui dire, « Toi, vaillant guerrier, va avec cette force que tu as et délivre Israël des Madianites. » Va avec cette force que tu as et délivre Israël des Madianites. » Et là, après avoir douté de la réalité de la présence de Dieu à leur côté, Gédéon se met aussi à douter de ses capacités à lui, de ses capacités personnelles. Non seulement il ne croit plus à l'intervention de Dieu au sein de son peuple, mais il ne se croit pas non plus capable de conduire son peuple dans une telle, accomplir une telle mission. Quoi, moi, sauver Israël de la main des Madianites? Avec quoi? Impossible. Je n'ai pas la carrure, je ne suis rien. Il a eu exactement la même réaction que beaucoup d'autres grands hommes de Dieu, n'est-ce pas, de l'Ancien Testament. Je pense à Moïse, lorsque le Seigneur l'a appelé à délivrer son peuple de l'esclavage en Égypte, il dit, mais qui suis-je pour m'occuper d'une telle mission? Je suis inapte, je suis mal équipé, je ne sais pas parler. Et Dieu lui dit, je serai avec toi, Moïse. Je serai avec toi. Je pense aussi à Jérémie. Jérémie confesse son incapacité à parler. Et pour être prophète, il faut parler, n'est-ce pas? Il me dit, mais je ne sais pas parler. Et le Seigneur lui dit, mais je mettrai mes paroles dans ta bouche. Je mettrai mes paroles dans ta bouche. Ici aussi, le Seigneur promet d'être avec Gédéon et de l'accompagner dans sa mission. C'est lui qui l'appelle. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Va avec cette force que tu as, je serai avec toi. Je serai avec toi. Gédéon avait besoin d'un relèvement. Il avait besoin de sortir de cette attitude de défaitisme, n'est-ce pas, dans laquelle il se trouvait, de défaitisme et même d'incrédulité dans laquelle il se trouvait. Il avait perdu la foi et il fallait avant tout qu'il retrouve confiance en Dieu. Et aussi confiance en lui-même, s'il se mettait entre les mains du Seigneur. C'était la première étape, donc, de l'entrée dans la vocation que Dieu avait pour lui, Gédéon. Mais il est tellement peu convaincu que Dieu voulait se servir de lui pour délivrer Israël, qu'il n'est même pas sûr de reconnaître la voix du Dieu de ses ancêtres. Il a des doutes aussi à ce niveau-là. Est-ce que c'est vraiment Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob qui me parle? Il a besoin d'un signe pour être sûr que c'est vraiment Dieu qui lui parle. Lui, le plus petit de sa tribu. Un peu comme Thomas, qui a ressenti le besoin, n'est-ce pas, de voir les marques des clous dans les mains du Christ pour croire à la résurrection. Et pour être sûr, Gédéon va préparer une offrande, un repas. Donc il prend ce qu'il avait chez lui, les produits qu'il avait chez lui. Il fait patienter le messager et selon le verset 19, il va cuire du pain sans levain, tuer un chevreau et le laisser dans son jus. Et de retour sous l'arbre, Gédéon donc apporte ce repas au messager de l'Éternel. Celui-ci lui demande de déposer son offrande sur un rocher qui se trouvait à côté. Rocher qui va finalement servir d'autel. Et là, Dieu va se révéler de manière spectaculaire à Gédéon, car le feu de Dieu va transformer son offrande en sacrifice. Le verset 21 dit, « L'ange de l'Éternel avança le bout du bâton qu'il tenait en main et en toucha la viande et les pains sans levain. Une flamme jaillit du rocher et consuma la viande et les pains. » Puis l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. À ce moment, Gédéon reconnut que c'était l'ange de l'Éternel et il s'écria, « Malheur à moi, Seigneur l'Éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. » Mais l'Éternel lui dit, « Rassure-toi, n'aie pas peur, tu ne mourras pas. » Et le verset suivant nous dit, « Gédéon construisit à cet endroit un autel à l'Éternel et il appela l'Éternel la paix, l'Éternel assure la paix. » Maintenant, il était en paix. Le feu que jaillit souvent sans avoir été allumé sans être alimenté par un combustible quelconque, donc bouleverse cet homme, bouleverse Gédéon. Grâce à ce miracle du feu, Gédéon va discerner finalement son appel. Et grâce à ce miracle du feu, il va entrer de plein pied dans la mission que Dieu était en train de lui confier. Après le relèvement nécessaire, le discernement de cet appel que Dieu lui donne. Voilà la deuxième étape donc vers le chemin de la vocation. En fait, ce sacrifice, va orienter toute la suite, toute sa vie finalement. Ce sacrifice va orienter toute la suite de sa vie. C'est ce sacrifice qui le convainc de répondre à l'appel de Dieu. C'est ce sacrifice qui lance sa vocation comme chef du peuple pour la libération donc de son peuple, la libération d'Israël. Étant maintenant certain que Dieu est avec lui et que c'est Dieu qui l'appelle, il se met effectivement en marche. Il se met en marche vers sa mission. Il faut dire qu'en préparant son offrande, il se met déjà en marche, n'est-ce pas, vers sa vocation. Sinon, il ne l'aurait pas fait. Mais maintenant, il faut dire que Gédéon est sûr et il va se mettre en marche, il va prendre des risques. Il va d'abord mettre à terre une statue, si on lit la suite, il va mettre d'abord à terre la statue du dieu Baal, ce qui lui vaut d'ailleurs des menaces de mort, mais il est prêt à aller jusque-là. Puis, il teste encore une fois la volonté de Dieu avant de partir au combat, parce qu'il veut une preuve tangible, c'était quelqu'un qui avait vraiment besoin d'être rassuré. Et il va lui demander de prouver par des signes qu'il voulait bien se servir de lui, Gédéon, le plus petit de sa tribu. Et ce sera le double épisode de la toison de l'Aisne et de la rosée. Et Dieu répond à Gédéon. Dieu répond à Gédéon en lui donnant les preuves dont il avait besoin pour se lancer dans la bataille. Mais après cela, c'est Dieu qui va mettre Gédéon à l'épreuve. C'est Dieu qui va mettre Gédéon à l'épreuve. Gédéon va rassembler une armée de 32 000 hommes. Mais Dieu lui dit, non, c'est l'armée est trop nombreuse. Alors que les autres étaient beaucoup plus nombreux, hein, les ennemis étaient beaucoup plus nombreux. Dieu lui dit, ne choisis que 300 parmi ces 32 000 hommes. Une folie, non ? Une folie. 300 parmi 32 000 hommes alors que l'armée en face est beaucoup plus nombreuse. Et il dit, tu vas choisir ces hommes d'après un signe que je vais te donner. Ceux qui prendront de l'eau dans leurs mains pour la porter à la bouche, pour la laper, ce sont ceux-là qui seront avec toi et qui participeront au combat. Même si l'effectif a été considérablement réduit, n'est-ce pas, Gédéon a fait confiance et l'Éternel donc va permettre à Gédéon de remporter une victoire avec ses hommes. Le verset 28 du chapitre 8 dit ceci, après la bataille, « Ainsi les Madianites furent affaiblis par les Israélites et ils ne se relevèrent plus de leur défaite. Aussi longtemps que Gédéon vécut, c'est-à-dire encore pendant 40 ans, le pays jouit de la paix. » Nous constatons donc que Gédéon a su répondre et a su rester fidèle et loyal à l'appel que Dieu lui a adressé, cet appel solennel que Dieu lui a adressé. Après sa victoire sur les Madianites, en guise de récompense, les hommes d'Israël veulent le faire roi. Mais Gédéon refuse. Il a refusé et a déclaré au verset 23 du chapitre 8, « Non, je ne régnerai pas sur vous, c'est l'Éternel qui règnera sur vous. C'est l'Éternel qui règnera sur vous. Soli Deo gloria, n'est-ce pas ? À Dieu seul la gloire. » Gédéon ne veut pas que la gloire vienne à lui, mais à celui qu'il a appelé à accomplir cette mission. Et donc, on voit encore un trait intéressant de Gédéon, la modestie et l'humilité. Il était vraiment convaincu que ce n'était pas grâce à ses efforts qu'il a remporté la victoire, mais c'est parce que Dieu était avec lui. Le succès venait de Dieu seul. Il voulait donc lui renvoyer tout le mérite. Que pouvons-nous apprendre de cet appel de Gédéon ? Alors, beaucoup de choses, mais j'ai retenu au moins trois choses. Gédéon est un bon exemple de quelqu'un qui a été appelé à accomplir de grandes choses pour Dieu. Alors qu'il ne représentait rien, ni pour son peuple, ni à ses propres yeux. Et dans la Bible, et même dans l'histoire de l'Église à travers les siècles, nous constatons qu'il n'était pas le seul à ne pas se sentir capable d'accomplir telle ou telle tâche pour le Seigneur, à ne pas se sentir à la hauteur de l'œuvre à accomplir. On parle de Gédéon, de Moïse et de Jérémie, mais on pourrait parler aussi de David, n'est-ce pas, que nous connaissons bien, je suppose. David qui a été roi d'Israël, mais avant d'être roi, il a été capable de faire quelque chose que les guerriers les plus expérimentés de son peuple n'ont pas su faire, arrêter définitivement les menaces d'un certain Goliath, n'est-ce pas, qui menaçait terriblement le peuple d'Israël. Quand on sait, et David étant qu'était un berger, le plus petit de sa famille, quand on sait que les apôtres étaient des simples pêcheurs, que savaient-ils faire d'autre que d'aller à la pêche? Je pense que c'était vraiment la seule chose qu'ils savaient faire, hein. Et le Seigneur les a appelés et les a utilisés de manière très puissante pour le début de son Église. Quand on sait que le père des missions modernes était un certain William Carey, n'est-ce pas, qui était quoi, cordonnier. Et quand on sait que tant d'autres à travers les siècles ont fait des choses extraordinaires, fantastiques, alors qu'ils se sentaient faibles, on sait que finalement Dieu utilise les faiblesses des uns et des autres pour montrer sa puissance. Ces gens-là ne sont pas reconnus compétents pour faire ces choses, mais ils les ont faites parce qu'ils ont reçu un appel de la part du Seigneur et le Seigneur les a puissamment utilisés pour son œuvre. Alors je me demande, à la lecture de cet épisode et de ces choses-là, si Dieu finalement n'est pas attiré par la faiblesse, nos faiblesses à nous, la faiblesse des hommes. En tout cas, attiré vers par ceux qui se croient inaptes, n'est-ce pas, à accomplir, à être utilisés par lui dans son œuvre. Ceux qui ont un sentiment d'incapacité. Et pourquoi Dieu va vers eux, vers ces personnes? Souvent, nous pensons que Dieu veut utiliser surtout nos points forts, pour faire progresser son œuvre. Mais quand on lit ce texte et quand on voit la vie de ceux qui ont fait pas mal de choses dans l'œuvre du Seigneur, je pense pouvoir dire que le Seigneur veut surtout utiliser nos faiblesses. Nos faiblesses, parce que c'est seulement quand nous avons conscience de nos incapacités et de notre faiblesse que nous nous approchons de lui, que nous comptons entièrement sur lui et que finalement nous le glorifions. L'apôtre Paul écrit « Dieu a choisi ce que le monde estime fou pour couvrir de honte les sages. Il a choisi ce que le monde estime bas et méprisable, ce qui n'est rien à ses yeux, pour détruire ce qu'il estime important, afin qu'aucun être humain ne se glorifie devant Dieu. » Afin qu'aucun être humain ne se glorifie devant Dieu. En tout cas, une chose est sûre, Dieu utilise surtout des personnes comme Gédéon qui sont conscientes de leurs limites et de leurs faiblesses. Et Gédéon est un bon exemple de la manière dont Dieu travaille dans la vie de ces personnes et de la manière dont il se sert d'elles et de leurs faiblesses pour accomplir son plan. Lorsque Dieu vient voir Gédéon, à travers le messager, à travers cet ange, il s'adresse à lui en lui disant « L'Éternel est avec toi, vaillant guerrier. » Alors qu'il était en train de battre son blé, n'est-ce pas ? Vaillant guerrier. Il est bien évident qu'à ce moment-là, Gédéon était bien loin de posséder la force d'un combattant, d'un guerrier, d'un héros. Mais ce n'était pas ce que Gédéon était à ce moment-là qui comptait pour Dieu, c'était ce qu'il allait devenir dans les mains de Dieu. C'était ça qui était important, ce qu'il allait devenir grâce à l'action de Dieu dans sa vie. Dieu est spécialiste pour utiliser les faiblesses de quelqu'un afin de les employer à son avantage, à son service. Et c'est ce qu'il fait avec chacun de nous. chacun de nous qui avons accepté Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur. Le Seigneur disait à l'apôtre Paul, « Ma grâce est tout ce dont tu as besoin, car ma puissance manifeste pleinement ses effets quand tu es faible. » Ma puissance manifeste pleinement ses effets quand tu es faible. Malgré ses capacités limitées, malgré ses faiblesses, Dieu a puissamment utilisé Gédéon, comme on l'a pu constater. L'homme est limité, mais Dieu n'est jamais limité dans ses actions. Et il se réjouit de manifester sa puissance dans des vases ordinaires. Et là, je pense à ce que l'apôtre Paul disait aussi, « Nous sommes comme des vases d'argile, afin que l'on voit bien que cette grande puissance appartient à Dieu et non pas à nous. » Comme des vases d'argile, nous sommes fragiles. Et pourtant, Dieu, à travers ces vases d'argile que nous sommes, prend plaisir à accomplir de grandes choses dans ce monde parce qu'il est le Dieu de l'impossible. C'est d'ailleurs pour cela que l'apôtre Paul affirmait aussi « Je peux tout par celui qui me fortifie. » La deuxième leçon, c'est que du moment que Dieu choisit quelqu'un pour accomplir telle ou telle chose en son nom, eh bien, il va se manifester au cœur de son quotidien. C'est ce qu'il a fait avec Gédéon, n'est-ce pas? Il va se manifester au quotidien de cette personne. Alors, je pense pouvoir dire que Dieu, finalement, vient se manifester, vient nous rencontrer dans nos faiblesses et dans nos peurs, comme il a fait pour Gédéon. Dieu cherche toujours à nous rencontrer, peu importe ce que nous avons fait ou ce que nous avons vécu ou ce que nous vivons. Dieu vient nous rencontrer dans notre train-train de chaque jour, parce qu'il a un plan pour chacun de nous. Et il le fait ainsi pour, comme il a fait pour Gédéon, pour nous relever, pour nous donner confiance, pour nous aider à discerner ce qu'il veut pour notre vie, son plan pour nous, pour nous mettre en marche vers ce qu'il a prévu pour nous. Et comme pour Gédéon, comme pour Moïse, comme pour Jérémie, comme pour David, Josué et beaucoup d'autres, Dieu promet qu'il sera toujours avec nous. Toujours avec nous. C'est une des promesses d'ailleurs les plus importantes de la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus, avant de monter au ciel, il a dit « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Et rappelons que Jésus lui-même a reçu le nom d'Emmanuel, n'est-ce pas, qui signifie « Dieu est avec nous ». Alors la question que j'aimerais poser ce matin, sommes-nous préparés à recevoir, nous aussi, la visite du Dieu vivant au cœur de notre quotidien? Sommes-nous prêts à le laisser faire son œuvre en nous, son œuvre de relèvement et de discernement en nous, pour que nous puissions, comme Gédéon, dégager notre plein potentiel, ce potentiel qui Dieu met en nous, n'est-ce pas, pour son service? Dieu pose sur nous un regard plein d'amour qui relève, mais aussi un regard plein de promesses. Saurons-nous les saisir par la foi? Nous sommes appelés à rentrer pleinement dans la vocation que Dieu a prévue pour nous. Quelqu'un disait, la vérité d'une personne ne se trouve ni dans la tradition, ni dans l'imitation, mais dans la quête de sa propre vocation. Sommes-nous en train d'imiter d'autres? Ou est-ce que nous sommes en train d'accomplir ce que Dieu veut pour nous? Au départ, Gédéon ne savait pas quelle était sa vocation. Mais à partir du moment où il a su ce que Dieu voulait faire de lui, il ne s'est pas défilé. Il a pleinement entré dans cette vocation, il a pleinement accompli sa mission. Où en sommes-nous dans la recherche de la volonté de Dieu pour nos vies? Où en sommes-nous dans notre réponse à la mission que Dieu nous adresse sur cette terre? Où avons-nous besoin d'un relèvement? Comment cherchons-nous à discerner l'appel de Dieu? Que nous manque-t-il pour nous mettre en marche vers l'accomplissement de la volonté de Dieu? Souvenons-nous de Gédéon. D'ailleurs, il est appelé modèle de la foi, n'est-ce pas, dans la lettre aux Hébreux. Souvenons-nous de Gédéon. qui a pris Dieu au sérieux. Peu importe ce que nous vivons, nous ne sommes jamais seuls. Nous pouvons toujours compter sur Dieu, sur ses promesses et sur son amour. Aussi faible et aussi impuissant que nous puissions nous sentir, nous pouvons avoir la certitude que Dieu est avec nous et qu'avec lui, nous serons forts. Il appelle des hommes et des femmes comme nous, des hommes et des femmes ordinaires, mais il nous appelle tels que nous sommes pour que nous devenions forts avec lui. Et lorsqu'il nous appelle à le servir, comme il l'a fait pour Gédéon, il nous promet à nous aussi de nous fournir les ressources nécessaires, de mettre à notre disposition les ressources nécessaires pour accomplir son plan. Même dans les circonstances les plus difficiles, nous ne devons pas perdre l'espoir, perdre l'espérance, parce que Dieu cherche à nous rencontrer chacun d'entre nous. Il est un Dieu qui s'approche de nous. Avec lui, nous pouvons faire des merveilles. Que le Seigneur bénisse sa parole.